1 milliard 27 millions 15 247. Tel est le nombre d'habitants de l'Inde, très précisément. Je ne sais pas qui a établi ce chiffre avec autant de précision. Il date d'il y a un an, en 2000, au moment du passage en 2000, eh bien, il y avait 1 milliard d'Indiens. C'est quand même beaucoup de monde dont nous ne savons pas grand-chose, finalement, nous autres Français, heureux habitants du nombril hexagonal. Par exemple, des élections législatives. Eh bien, pour des élections législatives, il y a 605 millions d'électeurs qui se rendent au bureau de vote. Et combien de bureaux de vote? Eh bien, 900 000. 900 000 bureaux de vote pour élire 5 000 candidats pour des élections législatives. Un petit ordre de grandeur. Par exemple, les musulmans en Inde représentent 10 à 12% de la population. Très bien, eh bien, 10 à 12% de la population, ça fait 120 millions. C'est quand même des chiffres assez énormes pour nous. En Inde, 400 millions d'analphabètes. 400 millions d'analphabètes. 350 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 430 millions qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Voilà où nous sommes arrivés, pas seulement dans des chiffres, il n'y a pas seulement des chiffres, il y a aussi une vie, il y a aussi des gens, et on est absolument secoués, enchantés, stupéfaits à nouveau par ce pays. Là, on est arrivé à Bhopal. Bhopal, c'est à une heure d'avion au sud de New Delhi, et Bhopal, ça rappelle une chose horrible, une catastrophe, la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire. 10 à 12 000 victimes, c'était le 3 décembre 1984, il y a un peu plus de 19 ans, 150 000 blessés, et aujourd'hui encore, 10 à 15 personnes meurent chaque mois des suites et des séquelles de cette catastrophe. Donc voilà pourquoi on est là, pour essayer de comprendre et ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours, parce que c'est une affaire qui traîne. Alors, bien sûr, en janvier prochain, ce sera le Forum social mondial qui va se tenir ici, à Bombay, et c'est dans cette perspective que nous sommes là, mais pas seulement. On vous racontera tout ça à notre retour, mais pendant ce temps-là, ça continue, là-bas, si j'y suis, ne s'arrête pas, et aujourd'hui, donc, on continue l'hommage aux brigadistes et les brigades internationales, 1936, retour sur le retour de ces brigadistes venus 60 ans après, en 1996, dans ce train d'Albacete à Barcelone, sur les pas de leur jeunesse, de leur engagement, avec l'hommage qui leur est rendu par les uns et par les autres. C'est dans la base, j'y suis, et c'est tout de suite.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, en Espagne, avec les anciens des brigades internationales.
Flight number 2, arriving.
Celle-là, vous la connaissez?
Oh, je connais toutes. C'est dommage que je n'ai plus de voix pour
ça. En français, là.
C'est la lutte finale pour nous et demain la terre, je ne peux pas, sera le genre humain. C'est la lutte finale pour nous et demain la terre. En camp de concentration, on ne nous donnait rien. J'allais boire de l'eau à la fontaine pour donner le sein à ma fille.
Maintenant, nous sommes vieux, nous pouvons dormir
Notre conscience nous laisse en paix. Toujours vert, toujours rouge, les papis et les mamies des brigades internationales, aujourd'hui, juste 60 années après, reviennent en Espagne, là où ils étaient venus, les mains nues, se battre, l'automne 1936. Ils avaient 20 ans, ils venaient du monde entier, de 53 pays, ils furent 35 000 au total, ouvriers, gens de peu, salopards en casquette, petits intellos des faubourgs, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ils croyaient ça. Ils chantaient l'international, ils croyaient ça. Ils disaient ni Dieu, ni César, ni tribun, ils croyaient ça. Ils avaient 20 ans, ils venaient défendre un pays qui n'était pas à eux, défendre contre le fascisme, contre un ennemi commun, pour la paix, pour la liberté ou pour la République, et cette forme supérieure de la démocratie qui était pour eux, pour certains d'entre eux, le communisme. Vous souriez, vous avez raison, mais c'est facile aujourd'hui que les cartes sont retournées. Cocu, ils furent, oui, mais la peur d'être trompé ne les a pas empêchés d'aimer à mourir. Aujourd'hui, le communisme totalitaire, religion laïque, a implosé, balayé les débris d'une illusion. La question reste entière. Ils criaient « unité », ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se sont gourés d'ennemis, certains voulaient un monde meilleur, d'autres se battaient pour le meilleur des mondes. Ils étaient prêts à donner jusqu'à la dernière goutte de leur sang, alors que je ne donnerai pas la dernière goutte d'encre de mon stylo. Ils l'ont donné, leur sang, pour écrire l'histoire de l'Espagne, du monde et des hommes. Vous direz que les temps ont changé, que la page est tournée, qu'il faut de l'oubli, sans doute. Mais attention que toute ressemblance avec des fascismes existants, rampants, montants, ne soit pas tout à fait fortuite. Dernier voyage avec les derniers survivants, les derniers magnifiques, à bord des grands mythes politico-romantiques que l'épopée pathétique du soleil noir d'Espagne a engendré dans leur petit fauteuil roulant sous les médailles, les larmes et les œillets rouges. Bien sûr, en écoutant cela, il y a des dentiers qui grincent. 60 ans après, les lésions ne sont pas toutes refermées, les haines ne sont pas repliées, vos ennemis survivent avec vous. Mais quand leur train sera reparti pour la dernière fois, quand pour la dernière fois ils descendront les Ramblas jusqu'à la mer sur un tapis de fleurs, ils nous laisseront les mêmes questions. Comment se tromper sans se trahir? Comment avoir la foi sans tomber dans la religion? Comment lutter et douter? Comment se battre et penser? Comment s'attendre à l'inattendu? Comment vivre l'irrésolu? Comment découvrir en soi des trésors de désirs insatisfaits? Comment rester vert? Comment rester rouge? Ça peut paraître curieux, mais c'est sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, avec les anciens des brigades internationales.
Bienvenidos a la ciudad de Barcelona, amigos y luchadores de la libertad. Welcome to the city of Barcelona, to Catalonia. Welcome the people who has contributed to the freedom of the world, to the freedom of Spain, to the freedom of Catalonia and to the freedom of Barcelona. Durante dos días estaréis con nosotros y espero que tendréis todas las atenciones de todos los ciudadanos como esta gran bienvenida popular y espontánea en esta estación.
Pendant deux jours, vous allez rester avec nous et j'espère que vous allez recevoir toute l'attention que vous méritez. Et j'espère aussi que vous rencontrerez votre histoire personnelle.
Al paralel, al carrer Agó, la gran vía la Diagonal, tots aquests carrers, tots aquests racons de Barcelona.
Vous allez retrouver toutes ces rues que vous connaissez, le carrer de la Rue d'Aragon.
À la ciutat.
Le Paseo de Gracia, toutes ces rues que vous connaissez si bien.
Una forta abraçada de tots els barcelonins i de tots els catalans.
Recevez.
Salut i força!
Universidad de Castilla à la Mancha, c'est le campus universitaire d'un BCT. Là-bas, il y a les cars avec les anciens brigadistes qui sont en train de remonter de tous les pays, plus ou moins vieux, plus ou moins en bon état, tout souriant. Et là, il y a des gamins de très jeunes là qui ont une grande banderole où ils ont écrit Gracias, ça veut dire merci. Hola.
Hola.
Qu'est-ce que vous faites avec cette banderole?
Con esta pancarta queremos dar las gracias à la brigadista internationale en este pequeño homenaje.
Avec cette pancarte, nous voulons tout simplement dire merci aux brigadistes.
Quel âge vous avez?
18 ans.
18 ans.
Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, ces anciens?
Para nosotros han luchado por la libertad en un país que no conocían.
Pour nous, ils ont tout simplement lutté dans un pays qu'ils ne connaissaient pas.
Là, il y a un garçon qui vient, qui avec son beau t-shirt avec le Che, avec Lénine, avec une petite faucille et un marteau qui vient de Moscou tout droit. Quel âge tu as?
18.
18.
Pourquoi tu es là?
Je crois que c'est un exemple à suivre, mais non seulement pour la juventud, parce qu'il faut continuer à lutter pour la liberté, antes et ahora, en sitios comme en Bosnia, en Zaire. Et parce que c'est un exemple à suivre, non seulement pour les jeunes, mais c'est un exemple que devraient tenir en compte tous les gouvernements du monde. Surtout les gouvernements qui sont dans le Conseil de sécurité des Nations Unies.
C'est un exemple pour tous, mais pas seulement pour les jeunes. C'est aussi un exemple pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, en particulier par exemple les membres des Nations Unies.
Le car passe avec les anciens qui brandissent le poing. beaucoup de larmes, beaucoup de rires, beaucoup d'émotions sur le parcours de ces 350, 400 survivants des brigades internationales qui ont fait le voyage depuis chacun son pays pour célébrer le 60e anniversaire du début des brigades internationales qui ont combattu en Espagne durant la guerre civile espagnole qui a débuté par le soulèvement militaire du 17 et 18 juillet 1936. Ils sont venus de partout, vous le savez, de 53 pays. Ils avaient la foi, ils voulaient lutter contre le fascisme qui gagnait en Europe, qui avait gagné en Allemagne, qui avait gagné en Italie et qui allait gagner en Espagne, mais il le savait pas encore et il voulait absolument lutter. Il venait de loin, il venait des États-Unis, il venait, je l'ai dit, jusque de Chine, il venait de Hongrie, il venait d'Angleterre, de Grande-Bretagne, il venait de France. Très nombreux ont été les brigadistes à venir de France. Ça a été d'abord un mouvement spontané, absolument spontané, à partir des Olympiades de Barcelone qui se tenaient en juillet 36, et puis ça a continué, ça s'est constitué comme ça à la base d'une manière spontanée, et puis à partir de l'automne de novembre 1936, ça s'est organisé avec l'appui de l'Union soviétique. Mais il n'était pas pour autant tous communistes. En tout cas, ce qui nous a passionnés avec Christina Figuera, c'est de parler avec tous ceux-là. Parce que ils ont depuis eu des vies, chacun sa vie dans son pays, chacun des expériences, parce qu'évidemment l'histoire n'a pas cessé, ne s'est pas arrêtée avec la guerre d'Espagne. On va retrouver une femme, une grande figure de cette histoire-là, de cette épopée et de notre pays, qui est Lise London, dans ce train qui va nous conduire d'Albacete à Barcelone. Mais d'abord, les cars s'en vont. Alors, il y a tous ces papiers, ces mamies absolument magnifiques qui sont dans ces cars et qui lèvent le poing comme ça aux gamins, qui leur font signe comme ça. C'est de l'émotion. Il n'y a aucune agressivité, sinon cette rage de lutter et de vivre qu'ils nous transmettent et de rester debout. Cette idée qu'ils nous transmettent à tous et qui est une idée superbe et qui est un geste magnifique. Et puis, les cars s'en vont. Et puis, sur le trottoir, il y a un pépé qui reste là avec sa casquette. Il s'est fait beau, il est là, le poing levé. Le vieux monsieur d'Albacete avec qui on est, il salue ses copains qui reviennent 60 ans plus tard. Vous, monsieur, vous étiez dans l'armée?
Estaba guardando ganado y cosas de esas cuando fui a la guerra. Tenía 17 años.
Moi, j'avais 17 ans quand j'étais paysan, en fait. Ah. Et on m'a appelé pour aller à la guerre.
Ah, il dit salut, salut.
Non, estuvimos juntos. Yo iba en otra brigada por allí y no los conocía aquí.
En fait, je n'ai pas rencontré de brigadistes. Moi, j'étais avec ma brigade. Eux, ils étaient à Albacete. Et moi, j'étais en Extrémadour. Donc, je ne les ai pas rencontrés.
Quel souvenir vous gardez de cette époque?
Lo pasamos muy mal.
C'était terrible.
Hambre, mucha hambre.
On avait faim.
Y era mucho. Se pasó muy mal al terminal. Peor que la guerra. Peor.
Quand la guerre était terminée, c'était encore pire que pendant la guerre.
Et c'est passé maintenant, 60 ans après.
Reliquia. Ellos tiran a lo suyo.
Il reste des reliques.
C'est quel?
El alcalde no nos ha recibido. Aquí mismo. Y en Madrid no nos ha recibido.
Il reste des séquelles, hein, parce que vous voyez, le maire de la ville n'a pas voulu les recevoir.
Hein. Ah, mais non,
ils n'ont pas changé.
Et ce matin, vous vous êtes habillé beau, vous vous êtes fait beau pour saluer les camarades brigadistes qui sont venus du monde entier.
Et hier aussi.
Et hier aussi. C'est émouvant parce qu'ils sont venus ici nous défendre. Alors, c'est vrai, j'ai envie de les voir. C'était très émouvant pour moi. C'était bien de me souvenir.
C'était quand même le bon temps.
Pues non.
Non, à vrai dire, non.
Et qu'est-ce que vous vouliez?
Estamos aquí pobres, mal aquí. Todos ellos y uno tenían. Se pasaba aquí muy mal. Lo han tenido siempre con el pie y chao.
On voulait se battre pour le communisme, et contre le fascisme, parce qu'on était pauvres. La vie ici était terrible. Donc on voulait que ça change.
15 meses, 15.
15 mois, j'ai lutté. Pero, 15.
15 mois.
Al campo, a trabajar al campo, pero.
Après, je suis retourné au champ.
Pero eso. No había ni que comer y. Y matar mucho en las cárceles y matar.
Mais il n'y avait rien à manger, on tuait dans les prisons.
Sí, una cosa
vraiment,
mal,
c'était vraiment pas
terrible. La revancha de los que aquí no están.
aplastarás nuestra guardia, nuestra guardia, por guardia.
Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout? Nous ne pouvons pas perdre. Ou plutôt nous ne méritons pas.
Dans les trois wagons de tête du train d'Albacete à Barcelone, c'est... Les anciens des brigades internationales se reposent, discutent, se retrouvent, boivent un coup, se marrent, s'endorment avec leurs bérets, leurs médailles, leurs insignes, leurs émotions. Certains sont venus avec leur famille, leurs épouses, leurs enfants qui les ont accompagnés, et bien sûr dans des conditions complètement différentes, parce qu'il y a des niveaux sociaux 60 ans après complètement différents. Ça va depuis des Américains tout à fait, des États-Unis tout à fait cossus, jusqu'à des gens de la Havane qui ont eu un mal fou à venir pour se payer le voyage, d'autres qui ont vraiment des visages, des têtes, des destinées tout à fait différentes, mais tous évidemment se retrouvent dans la même émotion. Dans ce train, il y a une femme tout à fait remarquable qui est toute de noir vêtue, avec un magnifique chemisier blanc, un chignon très noir. Et cette femme, c'est Lise London. Alors on va tout de suite dire que c'est l'épouse d'Arthur London. Je crois pas que ça la vexe d'être la femme de quelqu'un, parce qu'elle est de toute façon, cette femme est de toute façon quelqu'un. On va passer ce voyage avec elle, avec sa mémoire, avec son histoire, avec sa personnalité, avec ses repentirs, avec sa fidélité à elle-même et évidemment à son mari, Arthur London, qui est mort exactement il y a 10 ans. Alors c'est une vie en somme qu'elle va évoquer pour si jamais il y avait des genoux qui arriveraient dans l'histoire de l'humanité, qui débarqueraient dans l'histoire de l'humanité. Je parle pas du journal, je parle de nous tous. Il faut rappeler qui fut Arthur London, mort en 86. C'était un haut responsable en Tchécoslovaquie, un haut responsable, c'est évidemment un communiste, et qui a été arrêté le 27 janvier 1951 et qui a été victime avec d'autres de procès fabriqués de toutes pièces par les conseillers soviétiques. C'est une histoire fameuse, ça a été un film fameux de Costa Gavras, avec incarné par Yves Montand, et Lise London a été la compagne de cet homme remarquable qui a incarné et qui a permis de découvrir ce qu'était, à ceux qui n'avaient pas encore compris, ce qu'était vraiment le stalinisme. En 1936, Lise London, qui avait à l'époque une vingtaine d'années, s'engage dans les brigades internationales.
J'étais très jeune. Quand je suis venue en Espagne, j'avais pas 20 ans encore. J'avais 20 ans, quoi, disons.
Qui étiez-vous ?
Moi, je suis d'origine espagnole, mais mon père était venu en France en 1900, il avait 16 ans à l'époque, pour travailler. Et en France, c'était très pauvre, l'Aragon, d'où il venait, c'était très très pauvre, ça ne pouvait pas nourrir les enfants. Les villages, d'ailleurs, étaient complètement dépeuplés. Ma mère était d'un autre village à 5 km de celle de mon père, c'était pareil. Durant tout le siècle dernier, il y a eu le dépeuplement de ces villes, qui à l'origine étaient des villes riches. On le voit d'après ce qu'il en reste. Moi, je suis d'une famille ouvrière très pauvre. Mon père était un mineur. Et un mineur, il a commencé dans les carrières de pierre, et il a fait des tunnels, tout ça. Et vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de protection pour les ouvriers. Et quand mon père s'est marié avec ma mère, c'était en 1900, à la fin de 1911. Et donc, ils sont venus au début de 1912, mariés, n'est-ce pas, tous les deux. Et mon père, à ce moment, était déjà silicosé. Et dans cette époque-là, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de salaire. Il n'y avait pas de secours. Et ma mère, vraiment, elle a fait tous les travaux possibles et imaginables pour qu'on ne meure pas de faim et pour qu'on puisse quand même, qu'elle puisse élever la famille, n'est-ce pas? Alors ça a fait que, très jeune, je me suis réveillée aux idées d'un monde nouveau où il y aurait plus de fraternité, plus de Vous savez qu'il n'y aurait pas tout d'un côté et rien de l'autre, que le travailleur soit davantage respecté et payé à la juste mesure son travail. Ça, ça a été un idéal de que j'ai eu tout de suite. Et mon père nous amenait aux réunions syndicales, il nous amenait dans les différentes... Vous savez, quand il y avait des réunions, même quand il y avait les théâtres ouvriers qui jouaient, il y avait aussi Montéus, j'ai vu Montéus, je me rappelle de Montéus, qui était venu chanter à Saint-Étienne les chants, vous savez, qui étaient si populaires bien à l'époque. Sûr. Et ça, je m'en souviens très bien, mais je me rappelle que notre adolescence, on l'a passée à Vénissieux. Oui. Et c'était au moment, d'ailleurs, où la crise économique est arrivée en France, qui venait de c'était en 29.
Ah, et tout, oui, c'est
la
ça.
Crise économique. Alors là, c'était la misère, hein, parce que là, c'était comme maintenant, on dégraissait. On n'employait pas ce mot à cette époque. Alors, papa, sans travail, mon frère, sans travail, ma sœur, elle travaillait. Et moi, on m'avait demandé de travailler, après, de laisser mon travail. Je travaillais chez Berliet, avec un salaire supérieur qu'à ceux qui avaient de bonnes dactylos, alors que moi, j'étais une très mauvaise dactylo, mais avec mes titres de stéréotypiste. Alors, j'étais là chez Berliet, mais on m'avait demandé, c'était Doron qui était à ce moment-là secrétaire du Parti communiste de la région lyonnaise, et il avait demandé si je pouvais aller travailler, vous savez, pour le secrétariat technique, en même temps tenir la permanence. Il avait averti mes parents, il dit, bon, on tâchera de lui donner ce qu'elle gagne maintenant chez Berliet, mais vous savez, nous, les rentrées d'argent sont rares, alors parfois on sera longtemps sans pouvoir lui donner de salaire. Et ça, mes parents l'avaient accepté parce qu'ils pensaient que pour la cause, il fallait faire des sacrifices.
Vos parents étaient au Parti communiste ?
Non, pas ma mère. Ma mère n'a jamais été. Ma mère n'a jamais été. Elle était très croyante. Mon père, lui, il était tout à fait athée. Nous, on a après suivi le chemin de mon père. Nous n'étions pas croyants. Mais on était quand même influencés par le fait que ma mère, c'était une chrétienne avec une foi absolue. Et quand on était petits, ma mère nous parlait de Jésus-Christ, alors elle nous disait que c'était l'homme qui était venu sauver les hommes sur terre. Papa disait, Jésus-Christ, mais c'est le premier communiste, c'est lui qui a lutté pour justement contre l'esclavage, pour que tous les hommes soient égaux, etc., etc. Alors en définitive, nous, on était contents d'être des communistes comme mon père, parce qu'à ce moment-là, il avait adhéré au Parti communiste, au syndicat d'abord au Parti communiste. On était heureux d'être en même temps les adeptes de Jésus-Christ. Alors vous voyez, ça a été ça notre
C'était la main tendue avant tout le monde.
Voilà, c'était la main tendue.
Quelques éléments pour se repérer dans cette histoire, peut-être, il faut remonter un petit peu avant 1936, en 1931, c'est la proclamation de la République espagnole, dont évidemment le peuple attend beaucoup, et il le prouve en 1934 par des grèves qui ont un caractère insurrectionnel et qui sont violemment réprimées par un certain général Franco. Des centaines de morts dans les Asturies, des milliers de travailleurs emprisonnés, on trouve à leur tête un syndicat anarchiste, la CNT, l'anarcho-syndicalisme étant à l'époque majoritaire et très puissant dans la classe ouvrière espagnole. En février 36, il y a un gouvernement de Front Populaire, de Fronte Popular qui est au pouvoir, qui est porté au pouvoir en Espagne, et je le disais, en juillet, c'est le soulèvement militaire avec à sa tête le même général Franco. Elisabeth Ricol, Lise London, raconte Itinéraire d'une camarade. Vous étiez à Paris en 1936 ? À quoi ressemblait 36 ?
En 1936, je suis arrivée de Moscou. J'ai travaillé 2 ans dans l'appareil technique du Comintern comme dactylo. J'avais là-bas... merci beaucoup. Hein. Merci. C'est à Moscou qu'on a appris qu'il y avait le coup d'État de Franco. Je suis revenue en France, c'était en septembre, c'est-à-dire un mois et demi plus tard. Et quand je suis arrivée à Paris, je suis rentrée travailler directement au Parti communiste, au 120 rue Lafayette. C'était le siège du parti à ce moment-là. Et j'ai travaillé avec Pierre Allard, qui s'appelait en réalité, mais ça je l'ai appris seulement après-guerre, il s'appelait Cerruti. Et c'était un Italien qui d'ailleurs était sénateur après-guerre, et qui lui a été il a joué un rôle très important et dans la formation des brigades. Et également, c'est lui qui a été avec Gosna qui ont créé France Navigation, qui a joué aussi un grand rôle pour le transport des armes en Union, d'Union soviétique, où il vendait les armes, il fallait encore que ça arrive en Espagne, et qui avait créé cette France Navigation. Alors, quand je travaillais avec lui, j'ai été directement en contact, je dirais, avec justement le début de la formation des brigades. Vous aviez déjà et des jeunes et des moins jeunes qui venaient avec l'exposition internationale, mais dont le but c'était d'aller en Espagne. Alors à ce moment-là, c'était donc le 22 octobre, la date officielle de la constitution des brigades, c'était le jour où le gouvernement espagnol a donné son accord. Mais à ce moment-là, il y avait déjà des étrangers en Espagne. Il y en avait à peu près déjà 2500 à Madrid qui étaient arrivés par leurs propres moyens. Il y en avait d'autres qui combattaient dans les milices en Barcelone. Moi, je suis venu avec le troisième convoi des volontaires. C'était à la fin d'octobre. Ça devait être le 26 ou le 28 octobre. Il y en avait eu deux qui nous avaient précédés à deux jours, l'un deux jours avant, l'autre quatre jours avant. Et le troisième convoi où je suis allée, moi, pour Marty m'avait demandé d'aller travailler comme la secrétaire à l'état-major à Albacete, parce qu'il n'y avait encore rien d'organisé. Et il m'avait dit, camarade Ricol, camarade Guise, est-ce que vous seriez d'accord de venir? Mais j'ai dit, écoutez, je ne peux pas, je suis enceinte. C'est pas une étant enceinte, moi, c'était en même temps pour moi la sûreté que je retrouverais mon Gérard, comme j'appelle toujours, qui lui était en Union soviétique, il était en Union soviétique à Moscou depuis déjà 33, pour échapper à une peine de prison qui aurait été très grave, et surtout qu'il était tuberculeux. Et j'étais sûre que le fait que j'avais un enfant de Gérard en moi, que ce serait, il n'y aurait pas de possibilité que ça empêche que nous nous retrouvions. Vous comprenez, c'était très important pour moi. Et Marty m'avait dit à ce moment-là, je vous promets, dans 2-3 mois, les choses seront déjà en cours, il y aura d'autres personnes, vous retournerez en France et vous accoucherez dans de bonnes conditions. Malheureusement, avec, vous savez, des transports sur les routes très mauvaises, défoncées. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu après une fausse couche et que j'ai perdu l'enfant. Alors, je suis resté après à Valence, on m'a soigné. Gérard m'y a rejoint. Vous imaginez, mettez-vous ça dans la tête avec un pneumothorax. Il a fait la franchise, vous savez, avec les guides, là, avec un groupe. Ils ont franchi les Pyrénées et ils sont allés jusqu'à Figueras à pied. Ça a été une chose. Moi, je me demande quelle force il pouvait avoir pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là. Alors, il m'a rejoint après à Valence et après, nous sommes allés ensuite, au début de novembre, on a rejoint après les brigades internationales à Albacete.
Comment vous étiez reçu?
Mon Dieu, c'est un des mes souvenirs les plus extraordinaires. Quand on est arrivé avec ce troisième convoi, on était 2000-2500 à peu près à l'intérieur, et ils s'arrêtaient à tous les villages quand on a traversé la frontière, et c'était les populations locales et celles qui étaient, vous savez, les voisines, même des petits villages qui venaient. Ils savaient qu'il y avait les internationaux qui arrivaient. Alors là, c'était des scènes inoubliables. Des scènes de fraternité inoubliables avec tous ces gens. Alors, ils saluaient en nous leurs frères, ceux qui venaient les aider, parce que l'Espagne se sentait absolument abandonnée. Il y avait la non-intervention, le blocus, c'est-à-dire que les autres recevaient les armes. Ils ont reçu toujours les armes, hein, les franquistes. Directement, c'était les Allemands qui les fournissaient en avion tout de suite. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils bombardaient des populations civiles, où la seule défense civile, c'était l'escadrille de Malraux. Il n'y avait pas autre chose à ce moment-là. C'est-à-dire que ça leur était pas difficile d'aller bombarder des populations qui n'étaient absolument pas couvertes par rien. Et il y a eu des bombardements terribles au début. Vraiment, c'était terrible, les bombardements. Quand je suis allé là, quand j'étais à Madrid, là, j'ai assisté à de multiples bombardements, vous savez. Mais c'était épouvantable. Parce que les seuls moyens, il y avait des canons anti-aériens. C'était la seule défense qu'il y avait, mais il n'y avait pas de chasse. C'était peu après l'entrée en guerre des brigades internationales. Vous savez, ils sont arrivés, eux, dans la nuit du 7 au 8 novembre, le jour de la mort de mon mari. La nuit du 7 au 8 novembre 1986.
C'est incroyable.
Il y avait deux dates. C'était la révolution d'octobre, la prise du palais d'hiver, et c'était l'entrée des brigades internationales à Madrid. Certains que nous, on luttait déjà. On luttait d'abord pour changer le monde, c'est-à-dire la lutte aussi du point de vue économique, du point de vue politique, n'est-ce pas? Mais quand il y a eu le danger fascisme, le fascisme qui s'est précisé, il y a eu un ennemi. Et ça a été notre lutte constante, n'est-ce pas? Depuis le début des années 30. J'étais jeune, vous voyez, j'avais 14 ans à ce moment-là, au début des années 30. Et donc, quand il y a eu cette agression, du fascisme international. On parle de la guerre civile, parce que c'est Franco qui l'a déclenché. Avec quel civil a commencé? Avec les compagnies de Marocains, de Moros, comme on dit en espagnol, parce qu'il était, lui, justement, il était le chef de la coloniale. Et il était en Afrique du Nord. Et il y a eu le transport de ses troupes par les avions allemands qui étaient mis à sa disposition. Vous comprenez, c'était vraiment une lutte très inégale. En France, on avait des accords commerciaux avec l'Espagne qui étaient signés déjà en 1935, c'est-à-dire avant le Frente Popular, entre la France et l'Espagne. Et dans les accords qu'il y avait franco-espagnol, il y avait un point, c'était la livraison d'armes pour une valeur de 25 millions de livres sterling. D'abord, le gouvernement Blum avait dit d'accord, on va livrer les armes. 5 jours après, au retournement, on ne livre pas les armes, mais au contraire, il y a l'embargo sur les armes pour l'Espagne. Parce qu'entre-temps, il y avait le gouvernement anglais qui était ultra-conservateur, qui poussait, qui disait d'ailleurs, si vous livrez des armes à l'Espagne, si vous êtes attaqué demain par l'Allemagne, on ne va pas à votre secours. Et d'autre part, il y avait un mouvement en France, qui était un mouvement d'ailleurs de la droite, qui était quand même assez forte aussi en France, et on avait aussi ceux qui sont contre la guerre, les pacifistes qui avaient joué un grand rôle pendant la période après la guerre, mais ils ne se sont pas rendus compte que là on était dans une autre guerre, et que dans cette guerre, le pacifisme, c'était tout ce qu'il y avait de pire.
C'est comme ça, madame, que vous expliquez la non-intervention de Blum?
Ah oui, c'est comme ça que je me l'explique. On a dit qu'il pleurait quand il a reçu plus tard la délégation qui avait été envoyée par le gouvernement espagnol en disant « Je sais, je comprends, mais je suis obligé de le faire », qu'il pleurait. Alors on dit, il y en a qui disent « Oh, c'était des larmes de crocodile », moi je ne crois pas.
Je ne ferme pas les yeux, croyez-le bien, à la réalité.
Léon Blum, 16 septembre 1936.
La solution, ce qui permettrait peut-être à la fois d'assurer le salut de l'Espagne et le salut de la paix, c'est la conclusion d'une convention internationale par laquelle toutes les puissances s'engageraient non pas à la neutralité. Il ne s'agit pas de ce mot neutralité qui n'a rien à faire en l'espèce, mais s'engageraient à l'abstention en ce qui concerne les livraisons d'armes, s'engagerait à interdire l'exportation en Espagne du matériel de guerre. Je sais bien ce que chacun de vous souhaite au fond de lui-même, je le sais très bien, je le comprends très bien. Vous voudriez que l'on arrive à une situation telle que les livraisons d'armes puissent être faites au profit du gouvernement régulier et ne puissent pas l'être au profit du gouvernement rebelle, au profit des forces rebelles. Naturellement, vous désirez cela. Dans d'autres pays, on désire exactement l'inverse.
Cette intervention a changé le monde.
Oh, mais bien sûr. Si la non-intervention n'avait pas existé, s'il y avait eu la livraison des armes qui aurait dû normalement être vendue à la République espagnole, c'est clair que la République gagnait. Quand vous voyez que des villes se sont portées la poitrine nue devant des armées qui les ont vaincues, vous comprenez? Mais ça, on ne peut pas, en continuation, la guerre. quand vous êtes après placé devant les tanks, devant les avions, devant toutes les armes modernes, c'est clair qu'après, une poitrine nue ne peut pas continuer à pouvoir gagner la victoire. Vous savez, c'est Victor Hugo qui a écrit, quand il y a eu le 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, vous savez, quand il faisait la critique, il avait écrit « Le coup d'État était cuirassé, la République était nue ». C'est ça qu'il a écrit, Victor Hugo.
Et vous étiez nu.
Oui, la République était nue.
À partir de quand vous êtes-vous aperçu, votre mari et vous, de la vraie nature du communisme ?
Mais quand c'est tombé sur nous, quand le coup est tombé sur nous, c'est-à-dire quand mon mari a été arrêté, quand il y a eu le procès, vous savez qu'avec les aveux, pendant un moment, alors que j'ai défendu jusqu'au bout et que je pensais qu'il a écrié son innocence, quand il y aurait le procès, on ne nous a pas admis au procès, on n'a pas vu le procès, on entendait seulement les voix dans la radio, c'est-à-dire le compte-rendu par la radio. Et j'ai entendu mon mari qui disait, ça je connaissais suffisamment le tchèque pour comprendre, quand on lui demandait s'il plaidait coupable ou non coupable, et qu'il a dit qu'il plaidait coupable. Et qu'ensuite il a commencé à répondre, à dire espionnage, ceci, cela, etc. Moi le ciel m'est tombé sur la tête d'abord. Parce que des aveux, c'est terrible des aveux. Parce que même moi, qui je me suis battue jusqu'au moment du procès, qui ai cru qu'au moment où mon mari... Parce que je ne savais pas qu'il devait y avoir, que mon mari était dans le procès. On m'a toujours dit qu'il était en garde à vue. Pendant 2 ans, c'était long, hein, mais en garde à vue. Et j'ai appris qu'il figurait parmi les 14 accusés du procès Slansky en me rendant au travail le matin, à l'ouverture du procès, quand c'était annoncé dans la presse « Aujourd'hui commence le procès contre la bande de traîtres, de terroristes dirigée par Slansky ». Et le tableau où figurait dans les 14 accusés le nom d'Arthur London. C'est comme ça que j'ai appris que mon mari était donc un des accusés.
Qui étaient les gens ? Vous étiez communiste, votre mari était communiste, mais les autres, est-ce qu'ils n'étaient pas tous communistes ?
Non, il n'y avait pas que des communistes. Vous aviez beaucoup de vous en aviez de très nombreux communistes. Hein. C'était normal, on était au premier front à ce moment-là dans la lutte contre le fascisme. Mais vous aviez des socialistes, vous aviez des sans-partis, vous aviez des romantiques, des gens qui étaient des antifascistes et qui sont allés là-bas avec en même temps un romantisme, n'est-ce pas ?
Malraux, par exemple ? Malraux, vous le classez comme
Malraux, romantique. Moi, à la fois romantique, mais c'était un antifasciste. C'était un antifasciste.
Qu'est-ce que vous dites maintenant sur lui ? Bien sûr, il va rentrer au Panthéon, bien sûr, etc. Mais quel commentaire vous faites sur Malraux ?
Je considère qu'il est resté fidèle quand même. Par exemple, sur la question de la guerre d'Espagne et son engagement aux côtés de la République, il est resté fidèle jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous savez qu'il avait toujours juré, même compris quand il était au gouvernement de Gaulle, que jamais il ne mettrait les pieds en Espagne du vivant de Franco. Et quand il y a eu d'ailleurs une délégation française, lui, il est resté sur le bateau. Il n'est pas descendu. Là-dessus, il a été très fidèle à son engagement. Et je pense que son engagement avec, auprès de De Gaulle, n'est-ce pas, je pense qu'il avait cette, la même sincérité. Autrement, je ne pense pas que De Gaulle lui aurait donné sa confiance.
Pendant des mois, nous n'avons pas eu autre chose à faire que d'organiser la discipline révolutionnaire. Le soutien des ouvriers portugais et les cloches des vêtements peuvent sauver la révolte. C'est l'organisation seulement qui peut sauver la révolution.
André Malraux.
J'ai vu dans une autre maison basse les derniers mercenaires français et américains de l'aviation, découragés, jouer aux osselets par terre. Il n'y avait plus d'avion. Et le sol commençait à trembler sous un autre grondement sourd qui se répétait et qui était l'arrivée des premières brigades internationales et des premiers régiments véritablement organisés d'Espagne. Pour la première fois, en face de l'ancien désordre, commençait l'ordre. L'ordre qui montait vers ce Madrid, qui signifie maintenant nos Pasaran, beaucoup mieux que ce mot lui-même.
Non, Pasaran ! Non, Pasaran ! Non, Pasaran !
Les jeunes ont beaucoup vu le film de Ken Loach, Land and Freedom. Quel commentaire vous avez à faire sur ce film et est-ce que vous pourriez expliquer, si c'est possible en quelques mots, ce qui pouvait opposer à l'intérieur des brigades internationales?
Vous parlez des événements de mai. Ça n'a pas joué dans les brigades internationales aucunement. Mais la différence qu'il y avait justement entre le POUM et les communistes, par exemple, disons, parce que c'est eux étaient avant des communistes et ils ont eu, après ils sont rentrés, ils étaient en désaccord, ils ont formé le POUM, n'est-ce pas? Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Il fallait faire la révolution à tout prix. La révolution d'abord, la guerre après. Et si on gagne la révolution, on gagnera la guerre. Mais pendant ce temps, les autres avançaient. Et dans un état de guerre, quand on est en guerre et quand il y a les fronts, qu'on est en train de se battre, quand il y a ensuite une deuxième guerre à l'intérieur de la guerre, qui est une guerre fratricide, parce que c'était vraiment fratricide, hein. Parce que comment maintenant, moi, en étudiant tous les problèmes, en réfléchissant depuis qu'il y a eu le cas de mon mari, puis après le 20e congrès et tout ce qui s'ensuit, c'est clair que je ne suis pas restée dans mes idées de jeune enfant naïf, n'est-ce pas? Et là, alors, j'ai beaucoup repensé aussi aux événements de mai. Alors là, je reste complètement contre cette action qui a été prise, n'est-ce pas, avec armée, avec, c'est-à-dire porter la guerre civile à l'intérieur d'une guerre, n'est-ce pas?
La guerre dans la guerre.
Mais la guerre dans la guerre. Mais le jugement que nous avons donné de ces hommes, on les jugeait trotskistes. On disait c'est Trotsky, ça a été organisé par Trotsky. Ça, c'était absolument faux. La réalité, c'est que c'était des révolutionnaires attardés sur les idées de Bakounine du siècle dernier. Alors, je considère donc, c'était le fait de révolutionnaires attardés, mais pas de fascistes.
Alors bien sûr, cette histoire, on y reviendra dans cette suite de reportages, surtout en arrivant à Barcelone, la division à l'intérieur, d'un côté le POUM et les anarchistes, et de l'autre côté les communistes manipulés par les agents soviétiques. C'est ainsi que Arthur Koestler deviendra violemment anticommuniste, je l'ai déjà dit, et comment Orwell dénoncera l'influence du communisme soviétique dans cette histoire. Pour ce qui concerne Lise London, elle est toujours communiste, même si elle n'a plus la carte du parti depuis l'intervention soviétique en Afghanistan. Elle défend toujours l'idéal de sa jeunesse, sa foi en un meilleur devenir de la société, mais elle dénonce inlassablement aujourd'hui l'aveuglement tragique, la foi inconditionnelle qui fut celle des communistes envers Staline et l'Union soviétique, entre autres. Elle parle inlassablement du risque fatal de ne plus douter, de perdre le doute, c'est-à-dire la liberté.
On avait une foi inconditionnelle. Tout ce qui venait de l'Union soviétique était absolument sacré. Staline, on en avait fait notre Dieu. Alors qu'on était athées, n'est-ce pas, on s'était fabriqué notre propre Dieu.
Une religion laïque.
N'est-ce pas, c'était une religion laïque. Et ça, c'était la grande erreur. C'était la grande faute de notre génération. Elle avait des qualités admirables, la génération antifasciste communiste, mais elle a eu cette chose-là. Et ça, j'ai mes forces de le dire à la jeune génération. Il faut tenir compte que cet aveuglement dont nous sommes rendus coupables de cet aveuglement, n'est-ce pas? On avait perdu notre sens critique, on avait perdu ce que Marx et puis les chercheurs appellent le doute, n'est-ce pas? Et ça, vous devez tenir compte de cela. La foi que nous avions dans un idéal qu'on considérait juste et que nous continuons d'ailleurs de considérer juste, d'apporter au monde plus de liberté, de fraternité, plus d'égalité et en même temps plus de respect pour le monde du travail. Alors ça reste toujours juste. Mais n'oubliez pas que notre erreur, l'erreur de notre génération, c'est d'avoir été des inconditionnels, d'avoir oublié notre esprit critique, le doute, et d'avoir appliqué sans aveuglément tout ce qui venait de l'Union soviétique, y compris par exemple quand on considérait Trotsky comme étant l'âme damnée, que c'était l'homme de Hitler, que c'était, vous comprenez, que c'était l'espion, l'anticommuniste, vous comprenez ces choses-là. Et nous, on considérait à l'époque vraiment que Trotsky était vraiment l'ennemi numéro un dans le mouvement ouvrier. Donc, on appliquait ça, même sans savoir ce que c'était, ni Trotsky, ni ce qu'il voulait, ni rien du tout. On ne connaissait pas. Et puis dans notre génération, à part les intellectuels, vous savez, la lecture n'était pas notre fort. Vous savez, mais on suivait aveuglément des mots d'ordre sans les comprendre souvent et en les appliquant. Et là, dernièrement, pour le numéro spécial pour les Brigades internationales, on a demandé que je fasse un article. Et comment était mon article? Justement, en éclairant les côtés lumineux et en éclairant les côtés sombres et en demandant que la jeunesse, tout en étant héritière de nos qualités de l'époque, qui était quand même, c'était magnifique.
Magnifique.
Cette camaraderie, tout cela, n'est-ce pas? Et puis, comment cette foi, il faut lutter, le fascisme ne passera pas, etc., etc. Mais surtout, ne copiez pas notre côté qui est
aveuglement.
Sombre, notre aveuglement. Et ça, je leur dis.
C'est pas parce que le stalinisme et en grande partie le communisme a été un aveuglement dramatique qu'il faut dénoncer que ce pourquoi vous vous êtes battu tout au cours de votre vie est discrédité.
Absolument. C'est mon opinion, c'était aussi l'opinion de mon mari.
C'était Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet, traduction Christina Figueras, à la technique Pascal Baldassari et Clotilde Thomas, réalisation Antoine Chao, assisté de Coy Nguyen, chef du répondeur Christophe Humbert. Si vous souhaitez réagir à cette émission, le répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37, demain 17h, troisième volet de cette semaine, Brigade Internationale.